France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le dossier jubilard, un féminicide sans encore. En 2020, à quelques jours de Noël, la disparition de cette mère de famille du Tarn maintient la France en haleine. Ce drame, a priori classique, puisqu'il met en scène le trio mari, femme et amant, se révèle en vérité hors norme. Car au fil des jours, les rebondissements s'enchaînent et l'affaire devient un feuilleton médiatique. Quant au principal suspect, Cédric Jubilard, le mari de la disparue, la presse le présente d'abord comme un type un peu balourd, incapable de dissimuler un tel crime. Il dévoile finalement une personnalité complexe et insaisissable. Plus de 4 ans après les faits, l'affaire n'a pas révélé tous ses secrets et le féminicide reste une hypothèse. Car ici, il n'y a ni scène de crime, ni corps, ni aveu, et le mari nie toute implication, malgré un faisceau d'indices graves et concordants, selon la formule consacrée. Il sera donc jugé pour le meurtre de son épouse en septembre 2025. Notre invité aujourd'hui, Ronan Folgoas, grand reporter au service police-justice du Parisien. Il est l'auteur du Mystère Jubilard, enquête au cœur d'une disparition, livre paru chez Studio Fac Édition, réédité en 2023 au livre de poche. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Colline Claveau-Mégevant, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Cohn.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
« 16 décembre 2020, 4h du matin, nuit noire à Cagnac-les-Mines. La brume d'hiver enveloppe cette commune rurale de 2600 habitants, perchée sur les hauteurs d'Albi, dont les quartiers résidentiels ont grignoté sur les champs. Au loin, on devine la silhouette fantomatique des tours d'une mine de charbon, aujourd'hui désaffectée. À 7h avancée de la nuit, seules quelques guirlandes de Noël clignotent aux façades de la petite ville assoupie. Mais au 19 de la rue Yves Montand, dans un pavillon de briques oranges que personne n'a pris la peine de crépir, un homme a les yeux grands ouverts. Il se nomme Cédric Jubilard. Le visage grave, ce peintre plastique de 33 ans, compose fébrilement le 17 sur son smartphone. Il souhaite signaler la disparition de sa femme, Delphine. Au gendarme qui prend l'appel, il explique d'un ton monocorde. Hier soir, sa femme a quitté la maison pour promener les chiens. Ce n'est qu'en se réveillant, vers 3h45 du matin, qu'il a constaté son absence. Il tente de la joindre sur son portable, en vain. Voilà qu'il ne ressemble pas. Infirmière de 33 ans, Delphine Jubilard est une femme sans histoire, maman d'un garçonnet de 6 ans et d'une petite fille de 18 mois. Calmement, le gendarme au bout du fil tente d'en savoir plus sur la mère de famille. Est-elle déjà partie sans prévenir ? Oui, une fois, répond l'époux. Une nuit d'août 2020. Delphine est sortie pour regarder les étoiles filantes et s'est endormie dans un champ. Mais là, nous sommes mi-décembre. Il fait un brouillard à couper au couteau et la température ne dépasse pas les 5 degrés. De surcroît, Delphine ne porte que son pyjama et sa doudoune blanche. Alors le fonctionnaire demande... Une dispute a-t-elle pu pousser Delphine à partir précipitamment ? Non, répond Cédric sans hésiter. Certes, le couple a enclenché une procédure de divorce, quelques mois plus tôt. Mais dans l'ensemble, tout se passe bien, sort-il. Mais à l'évocation de la séparation, là, il devient émotif. Et même il craque. « Je préfère partir du principe qu'elle est en danger », lâche-t-il, des sanglots dans la voix. Le combiné collé à l'oreille, le gendarme est perplexe. Un couple à bout de souffle, un mari inquiet, mais surtout une femme avalée par la nuit noire, une femme dont le profil de surcroît ne cadre pas du tout avec un abandon de famille, comme le confirme une parente anonyme au micro d'ICI Occitanie.
Delphine Jubilard, c'est une femme adorable, très douce, très gentille, quelqu'un qui a la joie de vivre... qui aime ses enfants, son travail. Voilà quoi, une femme heureuse quoi, qui semble heureuse. En premier, c'est une maman à plein temps quoi. Elle aime passer des moments avec ses enfants. Elle se repose très peu le matin pour pouvoir être disponible la journée, l'après-midi, pour faire des gâteaux, des choses avec ses enfants, pour après le soir repartir travailler. Donc oui, c'est une maman à plein temps, quoi.
Alors, pourquoi quitter ainsi ses enfants ? L'infirmière a-t-elle voulu fuir son mari ? Ou bien celui-ci est-il responsable de sa disparition ? Beaucoup de questions. Pour une seule certitude, les recherches doivent commencer au plus vite. À 4h50, deux enquêtrices de la gendarmerie se garent dans la rue déserte. Elles découvrent une maison posée au milieu d'un jardin aux allures de terrain vague. Des pots de peinture, des bâches et des bouts de ferraille traînent dans les broussailles. C'est simple, on dirait un chantier à l'abandon. Alors qu'elles montent l'escalier de parpaing nu, les deux agentes observent à travers la fenêtre une scène improbable. À genoux dans la cuisine, Cédric Jubilard referme le hublot de la machine à laver. Détail grotesque, en guise de pyjama, l'homme est vêtu d'une grenouillère panda. Alors l'espace d'un instant, les gendarmes se demandent si elles sont au bon endroit. Bon, elle toque à la porte, l'homme qui leur ouvre fait peine à voir. Petit, les épaules voûtées, le teint gris, il semble bouleversé. Les enquêtrices entrent alors dans le pavillon que l'artisan lui-même construit et que le journaliste Ronan Falgoas nous décrit.
Une maison avec une pièce principale d'une cinquantaine de mètres carrés entre la cuisine, le salon et la salle à manger qui communiquent. On poursuit ensuite dans un couloir comme ça qui mène vers les chambres. La première pièce que l'on visite, c'est justement la chambre conjugale. Il a lui-même réalisé les travaux. Il y a cette petite fantaisie adolescente avec cette housse de couette aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Et puis, il y a cette caricature du couple, Cédric et Delphine, un dessin fait au crayon. La ressemblance n'est pas tout à fait frappante avec Cédric et Delphine, mais elle est là, elle trône au-dessus du lit.
En passant d'une pièce à l'autre, les gendarmes sont frappés par le bazar ambiant. La vaisselle sale s'entasse dans l'évier, des affaires traînent un peu partout, la crasse s'accumule dans les coins, la maison est mal tenue. Mais à première vue, pas de traces de lutte. Les deux agents prennent place dans le salon, face à Cédric Jubilard. Ému, celui-ci déroule. La veille au soir, il se couche tôt, à 22h30. Il doit embaucher à l'aube sur un chantier. Son épouse, elle vit en décalé. Elle est infirmière de nuit et elle est en vacances cette semaine. Elle souhaite bonne nuit à son mari, puis retourne regarder la télé dans le salon avec le René. Ensuite, il est 3h45 du matin, quand les pleurs du bébé réveillent Cédric Jubilard. Et c'est là qu'il réalise l'absence de sa femme. En faisant le tour de la maison, il remarque que le téléphone de Delphine n'est plus là, mais qu'elle a laissé ses papiers d'identité. Autre bizarrerie, dehors, Cédric trouve leur chien, deux charpéines nommés Gnocchi et Oprah, alors que d'habitude sa femme les rentre. Des détails qui le poussent à contacter les amis de Delphine, puis les gendarmes. Face à lui, les deux agentes demandent à brûle-pourpoint. Madame Jubilard fréquentait-elle un autre homme ? Affaire sensible, la conversation se tend. Parce que Cédric a déjà surpris son épouse sur des sites de rencontres, et elle a eu une aventure il y a quelque temps. C'est fini, il en est sûr. Mais ça marque, évidemment. Et c'est rarement sans conséquence. Et puis Delphine ne peut pas être chez un autre homme, elle risque de tout perdre dans le divorce, martèle son mari. Il l'assure une nouvelle fois, non, il n'y a eu aucune dispute entre eux. Au moment de quitter le pavillon, les gendarmes sont perplexes. Quand soudain, Cédric Jubilard s'effondre en sanglotant. Qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'elle n'est plus là ? Dans toute affaire de disparition, on le sait, les premières heures sont cruciales. Alors, dès le lever du jour, d'importants moyens de recherche sont déployés à Cagnac.
Une centaine de militaires et de gendarmes quadrillent un périmètre de 5 km. Des nageurs aussi, sondent lacs et étangs.
On prend l'extrémité, puis on va tourner le long. Allez, c'est parti.
Des recherches et une enquête menée en porte-à-porte.
Bonjour. On vient dans le cadre de la disparition. Oui. Vous avez rien remarqué d'anormal?
Oui, oui, oui.
Est-ce que vous avez un puits sur votre propriété ou pas?
Ah non, non.
Vous n'avez pas de puits?
Il n'y a pas de puits.
On recherche également le téléphone portable.
Malgré tous ses efforts, aucune trace de Delphine, volatilisée. Alors les gendarmes passent à la vitesse supérieure. Des drones et un hélicoptère sillonnent le ciel de Cagnac, mettant les nerfs des habitants à rude épreuve. Dans l'entourage de Delphine, tout le monde est sous le choc. Oui, très vite, l'émotion se propage dans la région. Et puis nous sommes à l'approche de Noël et ses injonctions à être heureux. Alors à l'approche de cet événement, les gens se sentent d'autant plus sensibles au sort d'une jeune et jolie maman, infirmière de surcroît, l'une de ses premiers de corvée, qui lutte courageusement contre le Covid, applaudit tous les soirs au balcon. 10 jours après la disparition, les gendarmes mettent à profit les mois collectifs et organisent une grande battue citoyenne. L'appel est diffusé sur le compte Facebook de la gendarmerie du Tarn. Le 23 décembre, plus de 1000 personnes se pressent ainsi sur le parking de la salle des fêtes de Cagnac, le nez rougi par le froid et l'émotion. Il y a là les fidèles amis de Delphine, mais surtout des inconnus qui n'ont qu'une idée en tête, aider les autorités à retrouver l'une des leurs.
Sur les coteaux, dans les forêts et dans les champs, ils ratissent le moindre centimètre. 1000 personnes ce matin et plus de 700 cet après-midi se sont mobilisées pour tenter de retrouver Delphine Jubilard.
Je vous demande d'être très vigilant, de ne pas hésiter à soulever les branches.
Un peu plus tôt dans la journée, les bénévoles reçoivent les dernières consignes.
Alors je sais que beaucoup cherchent une doudoune blanche et un téléphone portable. Moi, je vous demande de signaler tout ce que vous trouverez.
Des habitants de toute la région ont répondu à l'appel.
J'ai des enfants de l'âge de la disparue, si vous voulez. Hein. Et donc, en tant que parents, on se sent tous concernés.
Je me suis dit, il ne faut pas que je reste comme ça chez moi sans rien faire. Je veux me rendre utile.
Parmi les bénévoles, une silhouette capte les regards et attise les messes basses. Cédric Jubilard, capuche rabattue sur la tête et masque chirurgical sur le visage. Que sait-il ? Que cache-t-il éventuellement ? Impossible de ne pas penser à un autre mari, Jonathan Daval, condamné quelques semaines plus tôt à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse, Alexia, après avoir joué les veufs et pleurés devant les caméras. Bref, Jubilard interroge. Qui est-il vraiment ? Cet homme qui prétend s'inquiéter pour son épouse, mais qui parle déjà de son cadavre. Les médias aussi se posent des questions. À partir du jour de la battue, chaînes de télé et journaux se passionnent pour l'affaire. De nombreuses photos personnelles du couple sont publiées, notamment celles de leur mariage, 7 ans plus tôt. On y voit Delphine qui prend la pose, radieuse dans sa robe blanche. Cédric en costume gris, le crâne dégarni, sourit maladroitement, le regard perdu dans le vague, comme si déjà quelque chose lui échappait. Devant ce cliché, difficile de ne pas penser trop belle pour lui. La relation entre Delphine et Cédric débute 15 ans plus tôt dans la moiteur du Barcadi, une boîte de nuit tarnaise où la jeune locale danse sur les tubes des Pussycat Dolls et de Camaro. Entrée gratuite pour les filles, 10 euros pour les garçons, alcool de mauvaise qualité, jeu de séduction. Delphine et Cédric, 18 ans, s'observent dans la pénombre du Bacardi. Ronan Falgoas nous les décrit.
Alors Delphine est brune, les cheveux longs. Elle mesure 1m68, plutôt jolie. Décrite unanimement comme plutôt discrète, attentive aux autres. Elle est très attentive à ce que peuvent dire ses amis, ses copines, quand elles sont notamment en difficulté. C'est une jeune femme qui fait l'unanimité autour d'elle. Cédric Jubilard, il a 33 ans, il a 2 mois d'écart avec Delphine. C'est un gabarit assez fluet, hein, il mesure environ 1m65, il est très mince, des yeux verts, un sourire parfois éclatant. Il est assez séduisant par certains côtés, en tout cas, il diffuse autour de lui un certain charme, et puis par moments, il peut montrer un visage beaucoup plus dur, beaucoup plus agressif.
La jeune Delphine est étudiante en BEP carrière sanitaire et sociale. Cédric, lui, vient d'échouer à son CAP de peintre tapissier. Eh bien que cela ne tienne, il ne manque pas de confiance en lui. Avec ses chaussettes remontées sur son jean délavé et son joint à la bouche, le jeune homme fait le show. Et c'est lui qui aborde Delphine. Sur le dance floor, une histoire d'amour débute. Quelque chose de puissant relie les deux jeunes gens. Delphine et Cédric ont eu une enfance cabossée tous les deux. Elle, issue d'une famille modeste, a vécu le divorce houleux de ses parents et a enterré un père alcoolique 3 ans plus tôt. Cédric, abandonné par son père, a connu, lui, les placements en famille d'accueil, puis en foyer et toute la violence qui va avec. En un mot, ces deux-là se comprennent. Et de ce point de vue, c'est une belle union. Et puis, la personnalité fantasque de Cédric amuse la discrète Delphine. « Elle était l'eau, il était le feu », décrira plus tard un de leurs proches. Eh bien, l'eau et le feu aménagent ensemble en 2007, dans un petit appartement, puis dans une maisonnette en bord de Tarn. Delphine décroche du premier coup son diplôme d'infirmière, tandis que Cédric réussit enfin son CAP et espère un CDI dans une entreprise de la région. Tout cela peut correspondre légitimement à la définition du bonheur ordinaire, aussi vrai qu'un autre. Mais ici, il est troublé par des ombres. Car des rumeurs courent sur Cédric, qui se livrerait à de petits trafics. Il passe aussi des nuits entières à jouer au poker, où ses qualités de bluffeur, voire de tricheur, font merveille. Et puis il y a ses incivilités qui mettent à cran les voisins. Cédric est grossier, colérique, toujours sûr de son bon droit. Parfois, le couple se dispute et des insultes fusent dans la petite maison en bord de Tarn. Tout cela n'empêche pas Cédric de faire sa demande en mariage en décembre 2011 dans un restaurant de la région. Au moment du dessert, une serveuse apporte à Delphine un gâteau orné d'une plaque en chocolat où il est écrit « Veux-tu m'épouser ?» Joli, non ? Leur union est célébrée le 22 juin 2013, en présence des deux familles bien sûr, mais qui se regardent en chien de faïence. Cédric déboule sur les lieux du mariage au volant d'une Ferrari rutilante qu'il a dégotée grâce à l'une de ses nombreuses combines. Sauf que du côté de la famille mariée, cette exubérance passe mal. Qu'importe pour les tourtereaux qui se fichent bien de ce que pensent les parents, c'est leur droit le plus absolu, et qui s'envolent en voyage de noces. À leur retour, ils aménagent à Cagnac-les-Mines. Ils ont mis toutes leurs économies dans un vaste terrain sur lequel Cédric a commencé à construire une maison. C'est la concrétisation d'un rêve pour lui, mais le début du cauchemar pour Delphine. I swim too quickly, 'cause big waves are hard to jump over. You're not sweet, not sickly, you don't taste like nothing when I'm sober. And I already wanna die, you just make it like 10 times worse. And I heard that you tell the guys I'm the worst. You come round on Monday, and goddamn you stink like you've missed me. I find it funny, you don't close your eyes when you kiss me. And I'm sick of your puppy eyes, you said boy should never cry. Well surprise, I bet no one's ever told you. You bought me some flowers, I gave them to someone else. Told me that you love me, you're just talking to yourself. I don't wanna know, I don't wanna hear it. Let yourself out, so conceited, yeah. You bought me some flowers, I gave them to someone else. Told me that you love me, you're just talking to yourself. And I don't wanna know, I don't wanna hear it. Let yourself out, you're so conceited, yeah. You don't find it too easy, you hide between the lines, but I read you. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'affaire Jubilard.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
La 24 décembre 2020, Cédric Jubilard, engoncé dans sa parka bleu marine, passe discrètement la porte de la gendarmerie de Cagnac-les-Mines. Les enquêteurs l'installent dans une salle d'interrogatoire et lui demandent d'un ton cordial s'il veut un café. Après tout, l'artisan est reçu en qualité de simple témoin. Mais en cette journée de réveillon, les gendarmes espèrent que Cédric va se mettre à table. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration vient d'être ouverte et l'enquête révèle déjà des incohérences troublantes. Comme la couette de Delphine que Cédric a nettoyée le soir de la disparition, souvenez-vous, les deux gendarmes l'ont vu accroupi devant la machine à laver. Pourquoi ce ménage nocturne? Pour l'instant, en pro expérimenté, les enquêteurs invitent poliment le mari à se confier. D'un ton égal, Cédric retrace alors son histoire avec Delphine. Le mariage, les enfants, la maison, les gendarmes l'interrompent. Ça va pas être simple, ce gros chantier. Cédric répond, ah ça non, c'est même un motif de dispute récurrente. Puis il se fait plus tranchant. Au fil des mois, Delphine est devenue un reproche vivant au sujet du chantier, justement, jusqu'à harceler son mari. Alors, à quand un escalier de ce nom, une salle de bain fonctionnelle et la rambarde du balcon? Les gendarmes s'engouffrent dans la brèche. Le couple avait-il des problèmes d'argent? Delphine gagne seulement 1700 euros par mois, ce qui, au regard de la dévotion d'une infirmière, si précieuse pour le moral des malades. Tandis que Cédric lui enchaîne les périodes sans travail. En plus des charges fixes du couple, il faut également payer sa consommation de cannabis, qui semble importante. Un peu gêné aux entournures, il admet, oui, il fume pour 300 euros de shit par mois, ce qui fait un certain nombre de joints par jour. Alors il pique la carte bleue de son épouse, ou pioche sur le compte des enfants, que Delphine alimente religieusement. De quoi attiser la colère de la mère de famille. Et ce qui devait arriver arrive, la rupture. Elle a lieu à l'été 2020, confie Cédric en regardant le fond de son gobelet de café. Ce matin-là, les gendarmes frappent à leur porte et réveillent Delphine. La voiture de son mari est en panne devant la mairie et il faut l'enlever d'urgence, sinon c'est la fourrière. À peine la maréchaussée repartie, Delphine explose et envoie une salve de messages rageurs à Cédric. Parce qu'elle en a assez de cette vie de bidochon et de ce mari-là qui fait figure de troisième enfant. Alors, le mot divorce est lâché. Basta. Un rictus déforme le visage de Cédric. À partir de là, c'est vrai, les choses ont changé. Une amie de Delphine raconte pour Envoyé spécial.
Elle reçoit des messages insistants de Cédric. Elle lui demande à quelle heure elle arrive ou autre. Plein de messages tout le temps pour maladroit, pour essayer de la reconquérir. Ça ressemble bien à un harcèlement quand même. Hein. Je vois pas enfin à recevoir autant de messages. J'ai pas la quantité, mais oui. Et puis cette insistance sur le fait de ne pas vouloir divorcer. Après, oui, elle m'a dit un jour, j'étais chez elle, elle se sentait espionnée. Ouais.
Cédric l'admet devant les gendarmes. L'espion, c'est lui. C'est-à-dire qu'en fouillant le téléphone et les comptes de Delphine, il découvre qu'elle s'est offert de la lingerie et même une nuit d'hôtel. Le soir où la jeune femme a prétendu s'être endormie en regardant les étoiles filantes, des conneries, assène-t-il. Tu parles, elle était au téléphone avec un homme. Oui, depuis l'été, Delphine entretient une liaison avec un père de famille de la région, qu'elle a rencontré sur une application et qui est également mariée. En tout cas, entre eux, c'est le coup de foudre. Au point qu'en décembre, l'infirmière et son amant décident de s'installer ensemble après les fêtes. Le soir de sa disparition, Delphine a envoyé un selfie à l'homme qu'elle aime. Sur la photo prise dans la salle de bain familiale, on la découvre mutine, vêtue d'un short, de pyjama et d'un débardeur blanc. Qui d'autre a pu voir ce cliché? Quand Cédric Jubilard quitte la gendarmerie, les gendarmes en sont sûrs. Delphine était sur le point de refaire sa vie. Et pour son mari, c'était inacceptable. Après cette audition, les jours, les semaines, puis les mois passent. Un temps interminable pour la famille de Delphine, qui se mure dans le silence. Le week-end, à Cagnac-les-Mines, on croise parfois ses amis qui battent la campagne. D'abord sous la pluie d'un hiver qui s'éternise, puis sous le pâle soleil du printemps. Mais Cédric, lui, ne cherche pas. Non, il entend poursuivre sa vie. D'ailleurs, il a une nouvelle compagne. d'une certaine Séverine, avec qui il s'affiche sur Facebook. De quoi irriter les proches de Delphine. Au mois d'avril, il se dispute avec une amie de sa femme et son mari qui enregistre la conversation musclée.
Il n'y a pas de soucis et des doutes. Sauf que comme tu peux le voir, il n'y a pas de preuves. Donc avant de faire des grands blablabla, on redescend sur terre et on cherche les preuves. J'ai rien à cacher. Je l'ai déjà dit à ta femme, j'ai rien à cacher. Je m'en bats les couilles. Cherchez dans Cagnac, je sais pas ce que vous allez chercher. On non, a été 5000, enfin 1000, 2000 à faire à la battue. Oh. Je pense que Cagnac, il n'y a plus rien à fouiller.
Au lieu ta de femme, ça, c'est ma copine, ma c'est une maman, je fais ce que j'ai à faire.
Dépense ton énergie, alors... tant mieux.
L'été se profile. Pour que personne n'oublie Delphine, ses collègues infirmières organisent une marche blanche pour les 6 mois de sa disparition. Le 12 juin 2021, un cortège d'une centaine de personnes s'élance dans les rues d'Albi sous un soleil éclatant. Cédric est là, le visage mangé par des lunettes de soleil aux couleurs du drapeau américain. Un petit garçon l'accompagne. C'est le fils du couple, 7 ans à présent, qui brandit le portrait souriant de sa maman. Du côté des gendarmes, le travail de fourmi continue. Il ne faut pas se décourager malgré les fausses pistes et les cul-de-sac, comme les analyses de la couette qui ne révèlent finalement rien de probant. Le pavillon des Jubilards est à nouveau passé au peigne fin, ainsi qu'au boostard, ce produit censé révéler les traces d'hémoglobine, là encore, sans succès. Mais ces recherches toutefois ne sont pas vaines, puisque les enquêteurs retrouvent la paire de lunettes de Delphine sous le canapé du salon. Elles sont brisées, comme sous l'effet d'un coup. Et c'est là que se dessine un scénario dramatique, appuyé par plusieurs témoignages. Parmi eux, celui du fils du couple. Le soir de la disparition de sa mère, autour de 23h, il assiste à une violente altercation entre ses parents, qu'il observe depuis sa chambre. Aux gendarmes, le petit garçon raconte. Il se poussait avec les deux bras, une fois papa, une fois maman. J'ai entendu « Arrête-toi !» C'était maman qui disait ça. Autre témoignage, celui d'une voisine. Vers 23h, celle-ci fume une cigarette devant chez elle, quand soudain, elle entend des cris. Auditionnée par les enquêteurs, elle affirme, c'était des cris de femme, des cris d'effroi. La peur était si importante qu'elle n'avait pas le temps de reprendre son souffle. Le 16 juin 2021, Cédric Jubilard est placé en garde à vue, ainsi que deux de ses proches.
Il participait encore il y a 5 jours à une marche blanche organisée à Albi, en hommage à Delphine, sa femme disparue. Cédric Jubilard avait déjà été entendu par les enquêteurs, mais en tant que victime. Cet après-midi, c'est désormais un suspect que les gendarmes sont venus interpeller sur son lieu de travail. Sa garde à vue, qui se poursuit ici, à la gendarmerie de Gaillac, tout comme celle de ses proches, peuvent durer jusqu'à 48 heures.
Gendarmerie de Gaillac, dans la salle d'interrogatoire, l'atmosphère est glaciale. Fini le café et les amabilités. Le visage fermé, Cédric fait face aux gendarmes qui égrènent un à un les éléments retenus contre lui. Pourquoi son téléphone est-il resté inactif au début de la nuit fatidique, alors que d'habitude il l'utilise de manière compulsive? Sait-il que le podomètre du téléphone a enregistré très peu de pas durant le laps de temps où il dit avoir cherché Delphine partout? Les proches de la disparue affirment qu'elle ne sortait jamais les chiens, surtout pas la nuit. Alors pourquoi ce soir-là? Eh oui, le numérique, les caméras de surveillance partout, tout comme l'ADN, ont considérablement facilité le travail de tout enquêteur. Jubilard le sait, probablement, mais il a réponse à tout. Son portable, il l'avait mis à charger. Le podomètre, il n'avait pas besoin de son téléphone sur lui au moment de chercher Delphine. La balade de nuit, il n'avait pas pu sortir les chiens assez longtemps, sa femme avait donc pris la relève. Alors les gendarmes se font plus pressants. Des proches ont assisté à des gestes violents de Cédric envers son fils. Et pourquoi ne pas avoir mentionné la dispute dont témoigne le petit garçon? Jubilard vacille, mais parvient à se ressaisir. Certes, il peut être rugueux avec ses enfants, mais ça fait pas de lui un meurtrier. Et puis son fils se trompe, la dispute, elle a eu lieu des semaines plus tôt. Alors les gendarmes dégainent une série de témoignages glaçants. En novembre, Cédric lance à une amie. « Si Delphine me quitte un jour ou trouve quelqu'un, je serai capable de la tuer. » Aïe. Le 12 décembre, il confie à un proche. « Ça ne se passe pas bien avec Delphine. J'ai envie de la tuer. Rehaille. Sa propre mère, Nadine, l'a entendu dire « J'en ai marre de Delphine. Je vais la tuer, je vais l'enterrer. Personne ne la retrouvera. » Ça commence à faire beaucoup. Mais si l'intention abstraite, par définition, n'implique pas toujours le passage à l'acte. Cédric pourrait craquer, mais au lieu de cela, il rit. Alors, les gendarmes n'ont plus le choix. Nadine est dans la pièce d'à côté, et quand la mère de Cédric Jubilard entre dans la salle d'interrogatoire, elle ne peut retenir ses sanglots. On ne parle pas assez des parents de criminels ou soupçonnés de l'être. C'est évidemment une immense douleur. Et qui cela intéresse-t-il ?
J'ai plus de force. J'ai plus rien à ce moment-là. J'ai tellement plus rien que, pour me rassurer, je prends la main de mon avocate. Donc je demande à mon fils. Pour Elia, pour Louis, pour Delphine, pour nous, pour la famille de Delphine, de dire la vérité. Pour que moi aussi, plus tard, je puisse regarder mes petits-enfants droit dans les yeux et pouvoir leur dire aussi la vérité. Et que j'ai tout fait pour essayer de connaître la vérité. Et la réponse de mon fils, c'est « J'ai rien fait, maman ».
Le 18 juin 2021, le procureur de la République de Toulouse annonce que Cédric Jubilard est mis en examen pour homicide volontaire. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Seyss, près de Toulouse. Voilà. L'affaire aurait pu en rester en suspens, comme ça, jusqu'au procès. Mais depuis sa cellule, Cédric Jubilard continue à faire parler de lui. Il a pour voisin un certain Marco, un Corse précédemment condamné pour viol avec acte de torture et de barbarie. Cette fois, il purge une courte peine à la prison de Seyss et, comme Cédric, il est à l'isolement. Une nuit, Jubilard l'interpelle. Il a envie de se confier. Et, à sa sortie de prison, Marco raconte.
On voit un tac-tac-tac-tac au mur.
Ouais, tu dors ?
Non, je dors pas. J'ai vu la fenêtre. Elle me dit, oh, tu veux que je te dise en vrai ce qui s'est passé ? Et tu veux dire ? Il m'a dit, ah, je suis parti dans ma chambre. Posé, tranquille. Il descend chercher son chargeur en bas. Il la voit en train d'envoyer des messages. Il utilise le téléphone pour regarder et voit que c'est son amant. Et j'ai dit, t'as fait quoi ? Elle me dit, et j'ai pété les plombs, je m'en suis débarrassé.
Cédric s'inquiète auprès de son co-détenu. Un corps enterré peut-il remonter à la surface s'il pleut ? Marco ne peut pas répondre à cette question technique. Mais il veut en savoir plus. Pour quelle raison tu me demandes ça ? Après tout, le Corse n'a rien à négocier, il est sur le point d'être libéré. Plus tard, il expliquera qu'il souhaitait aider les enfants de Delphine. Alors, depuis sa cellule, Marco écoute attentivement Cédric qui cherche à se sortir d'affaire.
Il n'y a pas 36 000 solutions, il y a l'amant ou la femme de l'amant. Si tu veux envoyer une piste sur quelqu'un, tu l'envoies sur ces deux-là. Il me dit comment ? Tu déterres, tu vas aux poubelles de l'amant ou de... Et on fait en sorte que l'ADN passe dans cet endroit-là, on enlève la terre, on l'emmène. Je lui explique une possibilité de faire.
Toujours dans l'idée de résoudre l'affaire, Marco explique à son co-détenu qu'il peut exécuter ce plan macabre, certes. Mais pour cela, dit-il, il lui faut l'aide des proches à qui il se serait éventuellement confié, Cédric. Et une fois sorti de prison, le Corse contacte ainsi Séverine, la femme avec qui Cédric s'est affiché sur Facebook et dont il est à présent séparé. Cette quadragénaire a longtemps soutenu Jubilard, mais à présent, elle a des doutes. Elle va tout de même accepter de rencontrer Marco. Le Corse est convaincu que Séverine sait des choses, notamment la zone où Cédric aurait enterré le corps de sa femme. Alors il la cuisine.
Il me dit apparemment, il faudrait que je voie avec toi parce que toi tu sais aussi. Je dis mais comment ça, je sais aussi. Je dis, moi je sais pas aussi moi. Il me dit aussi, il y a un endroit où te ramener par amour. J'ai dit, m'a amené nulle part par amour. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, ça mouille, quoi. J'ai dit, il te demande d'aller déplacer le corps. Il me dit, ouais, il me demanderait d'aller déplacer le corps, quoi. J'ai dit, mais c'est une blague. J'ai dit, je pense qu'il se fout de ta gueule. Et il me dit, mais elle est où, cette ferme? Mais j'ai dit, je sais pas où elle est, cette ferme. J'y suis jamais allé, moi, sur ce lieu de cette ferme. Donc, on regardait sur Google, en fait. On regarde sur Google une ferme qui a brûlé. Et là, je lui dis, bah, apparemment, cette ferme, c'est celle-là, quoi. Mais j'ai dit, mais va voir, mais ça m'étonnerait que tu trouves quelque chose.
Rencardés par Marco, les gendarmes fouillent la ferme incendiée et retournent chaque centimètre carré de terrain. mais toujours pas la moindre trace de Delphine. Pour les avocats de Cédric, ces confidences seraient une pure invention de Marco. Cette séquence ubuesque serait même la preuve de la faiblesse du dossier. Selon eux, il n'existerait aucun élément matériel contre leur client et l'accusation ne reposerait que sur sa personnalité déplaisante. 4 ans et demi après sa disparition, Delphine reste donc introuvable. Et pour ses proches, le deuil est pour l'instant impossible. Ils espèrent des réponses lors du procès de Cédric Jubilard. Présumé innocent jusque-là, il sera jugé pour le meurtre de son épouse en septembre 2025 devant la cour d'assises du Tarn.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Jubilard, dont on parle, nous parlons, avec Ronan Folgoas. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au service police-justice du Parisien et vous avez publié en 2022 le livre Le mystère Jubilard, enquête au cœur d'une disparition, livre réédité en 2023 au livre de poche. Vous êtes le seul journaliste à avoir rencontré deux des protagonistes de l'affaire, Cédric lui-même et l'amant de Delphine. Alors, certaines disparitions font les gros titres, d'autres non. Pourquoi, à votre avis, celle de Delphine a eu un tel retentissement? Parce que, soyons francs, c'est pas non plus un fait divers qui raconte beaucoup de choses d'une époque qui n'est pas politique, c'est une histoire privée. Certes, c'est un scénario et une vraie histoire.
C'est à la fois l'événement et le moment, parce qu'on parle de la disparition d'une maman, deux jeunes enfants, quelques jours avant Noël. Cela intervient quelques semaines après le procès d'Aval,
et oui.
Qui avait préparer les esprits et qui avait posé la loupe sur un féminicide. Et puis, il y a aussi l'attachement immédiat, je pense, qui s'est noué avec la disparue. Le visage de Delphine est apparu, elle a été largement diffusée. Il y a aussi, c'est une caractéristique professionnelle, elle est infirmière, elle était engagée dans la lutte contre le Covid. Donc, il y avait un élan de sympathie autour de la personne de Delphine Jubilard.
Puis, il y avait eu l'affaire Viguier à Toulouse. Une femme disparaît, son mari est suspecté, ça ressemble, et c'est pas loin, Albi Toulouse.
20 ans plus tôt, mais effectivement, ouais. Cette affaire a marqué les esprits dans la région.
Alors, vous avez rencontré Cédric Jubilard à plusieurs reprises. Je ne vais pas vous demander quel homme il était, parce qu'on vous a entendu, on a entendu votre témoignage dans le récit, mais comment êtes-vous en contact avec lui?
Alors, très simplement, je veux dire, c'est un travail journalistique assez classique. D'abord, en rencontrant certaines de ses proches, et puis en s'intéressant aussi à son parcours, à l'histoire de son couple. C'est-à-dire que je l'ai contacté grâce à un premier contact. J'ai pu entrer en relation avec lui d'abord par messagerie, puis ensuite l'idée d'une rencontre a germé, et il a vu au travers des premiers articles qu'on a publiés dans le Parisien que l'on s'intéressait aussi à sa vie, à son histoire, à son mariage avec Delphine, à son parcours de vie, à lui. Et ça l'intéressait beaucoup.
D'accord.
Parce qu'on ne le réduisait pas au fait qu'il avait pu éventuellement commettre ou pas.
Parce que c'est vrai qu'il s'est montré méfiant avec le reste de la presse. Alors, au moment où vous le rencontrez, comment vit-il sa notoriété issue de son affaire? Parce qu'il faut toujours poser cette question-là, au passage.
C'est vrai que c'est un versant très peu exploré, puisqu'il faut vraiment vivre ce genre de situation pour s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on passe de l'anonymat le plus complet, que d'un coup, il devenait la personnalité peut-être la plus connue du Tarn.
Et de France, même après.
Et lui, un moment. Voilà, c'est un nom, enfin, en tout cas, qui est, c'est vrai, largement connu désormais dans toute la France. Et il pouvait, c'est ce que je percevais en tout cas, il jouissait d'une certaine manière de cette notoriété. Et ça l'amusait un peu, lui qui avait vécu une enfance si compliquée, il était toujours en quête d'affection, en quête de repères aussi familiaux. Là, il accédait soudainement à une autorité, tout le monde s'intéressait à lui.
Alors, c'est en avril 2021 que vous le rencontrez chez lui, à Cagnac-les-Mines, en tête-à-tête, hein. Racontez-nous ce moment-là.
On est dans une période là de reconfinement, donc la France est un peu à l'arrêt. Lui, il continue de travailler quand même sur ses chantiers. Hein. Il est peintre plaquiste, donc je le rejoins chez lui. Et donc on est début avril, et la première chose qu'il fait, peut-être pour briser la glace, il me propose une visite de la maison, ce qui m'intéresse évidemment grandement, de comprendre un peu la configuration des lieux, à quoi ressemble cette maison qui est vue de l'extérieur, délabrée, ni faite ni à faire. Et puis de l'intérieur, on se rend compte que finalement, plutôt bien aménagé. Alors certes, les finitions sont pas parfaites, loin de là, mais ce n'est pas le taudis qu'on avait décrit.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Renan Folgoas, donc vous allez chez Jubilard, vous regardez les lieux, la maison, on en a parlé, vous vous installez, c'est un tête-à-tête. Combien de temps dure-t-il d'ailleurs ?
J'arrive à 19h, je crois que je repars vers 1h du matin. Donc c'est un temps relativement long. On a le temps de faire connaissance, de parler de choses et d'autres. Et finalement, on parle assez peu de Delphine. Enfin, en tout cas, moi, je pars du principe qu'il ne faut pas lui poser de questions frontales dans cette situation tellement compliquée.
Vous le laissez venir, quoi.
Ça viendra naturellement sur le tapis, et c'est vrai que voilà, il a évoqué sa femme ce soir-là avec moi en des termes assez surprenants, globalement assez négatifs, en reprochant l'attitude qu'elle aurait pu avoir dans les mois qui précèdent sa disparition, en disant qu'elle n'assumait plus complètement son rôle de maman. Voyez des choses de cet ordre-là, des choses assez surprenantes dans la bouche d'un mari qui peut aussi être accablé.
Surtout.
Et qui peut être accablé par le chagrin, à l'inverse. Mais lui, ne semble pas du tout dans ce registre émotionnel. Au contraire, il se projette même sur la suite des événements, sur l'été qui arrive. Je lui demande s'il a des projets de vacances, pourquoi pas. Et oui, il a des projets, comme ça. Bon, je sens bien qu'il est déjà passé à autre chose. C'est en tout cas l'impression qu'on peut avoir.
Quelle impression globale vous avez en repartant vers 1h du matin ? Qu'est-ce que vous dites ?
Alors, vous voyez, on ne fait pas non plus tous les jours l'expérience d'une rencontre en tête-à-tête avec un suspect dans une affaire criminelle. Moi, je vous avoue que c'était la première fois, et c'est vrai qu'en sortant de chez lui, on a peine à croire qu'on vient de passer la soirée avec un possible auteur de féminicide. En tout cas, c'est pas du tout l'impression qu'il m'a faite, pour être honnête. Il est totalement détaché, totalement décontracté, au moins en apparence. Puis il parle avec beaucoup de légèreté, de choses et d'autres, si bien qu'on a vraiment du mal à concevoir qu'il puisse être réellement suspect. Et puis, d'un autre côté, il y a quand même des éléments troublants lâchés ici ou là au cours de la conversation qui me font dire que j'ai affaire à un homme assez unique en son genre, puisque dans l'hypothèse où il est innocent, il ne parle pas tout à fait comme un homme innocent et qui pourrait, eh bien, tout simplement regretter, être chagriné par le départ de la mère de ses enfants.
Il y a une forme d'arrogance ou pas ?
Alors, l'arrogance, je ne sais pas, je n'irai pas forcément ça. Il a une forme d'autodérision aussi, c'est-à-dire qu'il est capable de rire vraiment de lui-même et du sort qui l'accable lui, puisqu'il s'estime aussi victime dans cette situation, victime de sa mauvaise réputation, victime des conjectures médiatiques.
Il les a cherchées aussi.
Il les a nourris, bien sûr.
Il les a nourris.
Mais disons qu'il les, il s'estime aussi, il s'est positionné en fait comme l'anti-Daval. C'est-à-dire que c'était vraiment un fil conducteur chez lui, c'est-à-dire que Jonathan Daval s'était exposé face aux médias, il avait joué au conjoint éploré. Lui, au contraire, voulait prendre le contre-pied. C'est ce qu'il m'expliquait. Voilà.
Alors, vous avez également rencontré l'amant de Delphine, surnommé le confident de Montauban, dans les médias. Comment s'est passée la rencontre avec cet homme, apparemment très discret ?
Oui, alors, lui, je le rencontre fortuitement, j'allais dire. C'est-à-dire que je pensais avoir identifié son lieu de travail, et donc je l'ai attendu à la sortie du grand magasin dans lequel il travaillait. Et nous sommes rencontrés dans ces conditions. Et c'est vrai que là, l'impression est diamétralement opposée. J'avais face à moi un homme qui était au bord des larmes pendant les trois quarts d'heure qui a duré notre première discussion. Après, nous sommes revus, bien sûr, mais c'est vrai que là, il y avait la dureté de la disparition qu'on pouvait ressentir de manière très tangible, très, très concrète.
Le 15 décembre 2020, Delphine et la femme de son amant vont s'écrire par SMS. Vous confirmez ? Et si oui, de quoi est-il question ?
Oui, effectivement, cette journée, les heures qui précèdent la disparition de Delphine Jubilard sont extrêmement denses. Et il y a cet échange, effectivement, entre la femme de l'amant et Delphine, puisque la femme de l'amant a pris connaissance dans les jours qui précèdent de l'existence de Delphine, de la nature de la relation qu'elle avait avec son mari. Et la femme de l'amant décide de prendre contact directement avec Delphine pour lui dire, voilà, je sais que vous existez, je sais que vous êtes dans la vie de mon conjoint, je vous demande juste un petit peu de temps et je céderai ma place. C'est une sorte de pacte qui est scellé comme ça entre les deux femmes. Delphine répond d'ailleurs à ces messages. Les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse ont exhumé évidemment ces échanges de messages entre les deux femmes. Et Delphine a des paroles, a des mots tout à fait élégants. Et elle prend toutes les précautions possibles pour dire que voilà, elle respectera ce pacte et elle attendra son tour.
Ça pèse, ça, parce qu'il l'avait confié à des proches. Si elle s'en va, je suis capable de la tuer. Ou
ça pèse énormément.
Plus, voilà. Deux fois, il le dit.
Ça pèse énormément parce que si on se met dans la psychologie de Delphine Jubilard, à partir de ses échanges de messages avec la femme de l'amant, de son amant, eh bien, je veux dire, l'avenir lui est ouvert. Je veux dire, tout devient possible. Elle sait que son amant ne fera pas machine arrière. Et donc, elle peut se projeter dans cette nouvelle vie. Il reste une dernière étape, c'est informer son mari. Il est possible, c'est l'une des hypothèses, puisqu'il manque quand même, dans ce puzzle criminel, il y a une pièce quand même manquante, c'est le déclencheur. Pourquoi ce soir-là, Cédric Jubilard serait-il passé à l'action, si j'ose dire? Et il est possible.
Une dispute violente? Oh, pardon.
Il est possible que justement Delphine Jubilard est informée, ne serait-ce qu'avec une petite phrase, hein, une phrase ou deux, ça suffit.
D'où la dispute, peut-être la violence.
Peut-être. Ouais. Il a fallu en tout cas un élément déclencheur particulier, et il est possible que ce soit lié à cette discussion entre les deux femmes.
Alors au bout du compte, quels sont les éléments matériels qui pèsent contre Cédric?
Alors sur le plan matériel, c'est maigre. Il y a cette paire de lunettes déformées qui a été retrouvée par les enquêteurs plusieurs jours après les faits. Cette paire de lunettes pourrait être le stigmate d'une dispute violente entre les deux époux. Mais sur le plan matériel, il y a également la voiture du couple qui a changé de sens, semble-t-il, entre le soir et le matin. C'est-à-dire que la voiture de Delphine Jubilard était garée dans un sens montant de la rue Yves Montand, et le matin, elle est garée dans le sens inverse. Ce qui laisse à penser qu'il y a eu un déplacement nocturne, et donc possiblement une utilisation de la voiture par Cédric Jubilard pour transporter le corps de son épouse.
Donc au bout du compte, on a l'impression que le dossier repose surtout, pas en globalité, mais surtout sur l'attitude de Cédric Jubilard.
C'est l'un des éléments qui pèse contre lui, effectivement, c'est son attitude dans les jours qui suivent, puisqu'il ne donne pas le sentiment d'être un homme qui recherche son épouse, qui l'espère même. Il l'appelle peut-être 200 fois dans les heures qui suivent la disparition, deux fois le lendemain, et puis ensuite plus jamais. Ouais. Voilà, ce n'est pas tout à fait l'image d'un homme qui espère quelque chose. Bon, il y a ça, et puis il y a son attitude aussi avant. Il y a un contexte de séparation assez houleux, avec cette maison qu'il souhaite conserver à tout prix, et qui pourrait lui échapper en cas de disparition. Voilà. En cas de séparation, pardon.
Alors, très rapidement, l'épisode Marco, bon...
C'est tout à fait crédible.
Corse, hein.
Il est tout à fait possible que Cédric Jubilard ait lâché quelques phrases lourdes de sens, et ça c'est confirmé parce que Marco n'est pas le seul co-détenu à dire cela. Hein. Il y a un autre co-détenu qui confirme globalement la tonalité. C'est-à-dire que Cédric Jubilard avait tendance à se confier, à s'épancher, et globalement à formuler des aveux. En tout cas, ce qui ressemble beaucoup à des aveux. Donc Marco n'est pas le seul à dire cela.
Alors on est tenté de penser que le corps a été... Si c'est un meurtre, un féminicide, hein. Il a été enterré loin, parce que ça fait 4 ans et demi. Mais il n'a pas pu être enterré loin. C'est
pas
ça
forcément, parce que c'est une couvre-feu. Cédric Jubilard, dans l'hypothèse où il est impliqué dans la disparition de sa femme, Cédric Jubilard ne disposait pas de beaucoup de temps. Il faut se souvenir que les deux enfants dormaient à la maison. C'est un terroir, un ancien pays minier, truffé de cavités. Peut-être que Cédric Jubilard connaissait un endroit très particulier. C'est en tout cas ce qu'il avait annoncé avant les faits. Il a dit « Je connais un endroit où personne ne le retrouvera jamais ». Donc ça pèse aussi, cette parole-là pèse aujourd'hui très lourd.
Il ne croyait pas si bien dire, hein, au bout de 4 ans et demi. Merci infiniment, Ronan Folgoas.
Je vous en
prie. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Jubilard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.